Le lendemain, la jeune femme s'empressa d'aller déposer de nouvelles offrandes dans la gloriette. Cette fois-ci, elle aligna à côté des écuelles de nourriture des objets plus féminins. Une brosse à cheveux, un flacon de parfum, des ciseaux à ongles. Elle avait failli prélever un miroir de poche dans les affaires d'Angus, puis s'était ravisée en songeant que la fillette n'éprouverait aucun plaisir à détailler son visage ravagé par les brûlures. Mieux valait éviter les impairs. À la tombée du jour, les cadeaux avaient disparu. Amy jugea cela de bon augure. « Je progresse, » dit-elle, en se glissant dans son sac de couchage la nuit venue. « Dans quelques jours, je tenterai d'aller à sa rencontre, physiquement cette fois. » Elle dormait depuis 2 heures, quand elle s'éveilla soudain, persuadée que quelqu'un venait de se glisser dans la tente. À l'odeur, elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'Angus. Une curieuse puanteur parfumée flottait autour d'elle, mélange de crasse et d'eau de toilette. « C'est la gamine, » songea-t-elle aussitôt. « Elle s'est aspergée de parfum. Elle vient me rendre visite. » Elle décida de feindre le sommeil et de rester immobile, les paupières closes, afin de ne pas effrayer la visiteuse nocturne. À certains frôlements, elle devina que la gosse tournait autour du lit de camp pour l'observer sous différents angles. Amy percevait sa respiration chuintante, précipitée. L'enfant resta un moment immobile au pied de la couche, puis s'approcha de la table de chevet. Amy essaya de ne pas céder à la panique, car, depuis 3 minutes, son instinct lui criait qu'elle était en danger et qu'elle ne devait pas demeurer ainsi offerte sans défense. Malgré tout, elle garda les yeux clos et s'appliqua à discipliner les battements de son cœur. La fillette était maintenant toute proche. Son odeur devenait incommodante. Amy sentit qu'une main caressait ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, jouant avec les mèches bouclées d'un rouge profond. Puis quelque chose de froid se posa sur sa gorge. La pointe des ciseaux à ongles qu'elle avait déposés dans la gloriette, avec les offrandes, au début de l'après-midi. « J'aurais dû m'y attendre, » se dit-elle, en s'obligeant à la plus complète immobilité. L'acier lui piqua la chair, puis décrivit un arc de cercle sur son cou, mimant un égorgement symbolique. « Elle sait que je suis réveillée, » pensa la jeune femme. « Elle me met à l'épreuve. La petite garce veut savoir si j'accepte de lui faire allégeance. » La pression s'accentua. À présent, un peu de sang devait perler à la pointe des lames. Il était invraisemblable qu'Amy pût continuer à dormir dans ces conditions. La fillette le savait. Mais c'était un jeu. Un jeu pervers dont tout allait dépendre. Et si elle était folle, songea Amy, si elle décidait de m'égorger? Elle allait céder à la panique, lancer la main droite pour capturer le poignet qui menaçait sa gorge, quand les ciseaux furent retirés. En les entendant cliqueter dans l'obscurité, elle comprit qu'on était en train de couper une mèche de ses cheveux. Il y eut un froissement de toile et l'odeur disparut. La visiteuse avait regagné la forêt. Amy était en sueur. Elle toucha son cou, éprouva une légère douleur. Un peu de sang poissa ses doigts. La petite peste l'avait entaillée. Lorsque le jour se leva, elle nettoya la plaie et la dissimula sous un ruban de taffetas gommé. Elle se réjouissait d'avoir franchi une étape décisive. Le contact avait eu lieu. Restait désormais à personnaliser la relation. Alors qu'elle sortait de la tente, elle fut apostrophée par Angus. « Vous croyez que je n'ai pas compris à quel jeu vous jouez ?» lança-t-il la respiration sifflante. « Vous allez tous nous faire tuer, oui. La gosse est en train de se moquer de vous. Elle vous mène par le bout du nez. Elle s'amuse à laisser croire qu'elle s'apprivoise. C'est une ruse, ne tombez pas dans le panneau. Elle va vous attirer dans la forêt pour vous régler votre compte. » C'est toujours ainsi qu'elle procède. Je vous en conjure, rentrez chez vous. Ne restez pas ici. Elle vous a choisi pour victime.
Vous pensez qu'elle m'assassinera ? Répliqua Ami.
Oui, chuchota le jeune homme. Il existe plusieurs façons de mourir dans la région. Soit vous tomberez dans une fosse à sangliers, soit vous vous égarerez dans les marécages, et les sables mouvants feront le reste. Il y a aussi les serpents, les vipères. Les paysans ne sont pas dupes. Quand l'un des leurs disparaît dans la forêt, ils savent qu'une fois sur deux, c'est l'œuvre de la gamine. Ils ne font rien parce qu'ils ont peur et parce qu'ils lui attribuent des pouvoirs surnaturels.
Les moins superstitieux voient en elle une incendiaire.
Ils préfèrent la laisser en paix plutôt que de voir leur village flamber, comme ce fut le cas pour Wansgate. Elle a pris l'habitude de rester impunie. Vous comprenez ? Elle n'hésite plus à tuer. Elle est devenue le mauvais génie des bois.
Ça suffit, coupa Ami en se dégageant. Je n'ai pas l'intention de laisser cet enfant finir ses jours dans la forêt. Elle a besoin d'aide.
Foutez le camp, dit-elle en allemand.
Vous êtes stupide, explosa Angus. Vous vous attaquez à quelque chose qui vous dépasse. Je vous aurais prévenu.
Sur ce, il tourna le dos et s'éloigna d'un pas rapide en marmonnant des menaces.
Je sais pourquoi il est en colère, grommait la Libye qui émergeait de la tente réfectoire.
Il a peur que tu lui enlèves la gamine, parce que, d'une certaine manière, elle fait partie de sa collection. S'il pouvait l'empailler et la coller sur un socle, avec une étiquette, il le ferait sans hésiter. Tu imagines le tableau. Enfant sauvage de 12 ans, identité non définie, probablement responsable de l'incendie du château d'Ashden.
C'est ça qui lui plairait pour le coup.
Ami décida de brusquer les choses. Elle craignait en effet qu'Angus ne devienne incontrôlable et finisse par se laisser aller à de fâcheuses extrémités. S'étant équipée d'une gourde et d'un bâton, elle s'enfonça dans la forêt. Elle progressa lentement, suivant les étroits sentiers ouverts dans la végétation. Elle était persuadée que la fillette l'avait repérée dès son entrée sous les frondaisons. Elle attendait donc que le petit fantôme se manifeste d'une manière ou d'une autre. Elle découvrit une cahute constituée de branches tressées et de glaises. Le lierre la recouvrant en partie, la cache était invisible pour des yeux non avertis. Ami prit soin de s'annoncer par un « y a quelqu'un » proféré d'une voix qu'elle espérait engageante. N'obtenant aucune réponse, elle se baissa pour examiner l'intérieur de la cabane. C'était une caverne d'Ali Baba dérisoire, emplie de jouets récupérés dans les décombres, des poupées noircies, voisinées avec des marionnettes aux têtes charbonneuses. Un cheval à bascule carbonisée montait la garde sur le seuil, fixant Ami d'un œil méchant. L'endroit était sinistre. Dans un coin, on avait aménagé un lit de feuilles. Des peaux de lapin suspendues à une ficelle achevaient de se racornir. Ami estima la cage trop sommaire pour être autre chose qu'un repère parmi d'autres. L'enfant avait dû construire de nombreuses tanières analogues aux abords du manoir. Imitant Angus, elle les emplissait d'objets glanés dans les ruines. Alors qu'elle s'apprêtait à pénétrer dans la cabane, la jeune femme remarqua une liane tendue en travers du seuil. Un piège. Le lien devait commander la chute d'une pierre ou d'une bûche posée en équilibre à la fourche d'une branche, provoquant ainsi l'écrasement de la baraque. Elle recula. Au cours de l'heure qui suivit, elle repéra de justesse deux autres pièges. Une fosse à sanglier garnie d'épieux pointus et une potiche remplie de vipères qui aurait dû se renverser sur ses épaules à son passage. Elle comprit la raison de ce déploiement de précaution lorsque, atteignant la lisière des bois, elle découvrit de nombreux pantins de chiffon cloués sur les arbres. Toutes les poupées avaient la tête noircie au charbon. Le mot « sorcière » avait été tracé sur leur ventre d'une écriture enfantine. « Les gosses du village, se posa-t-elle. Ils ne peuvent s'empêcher de la persécuter. C'est de leurs incursions qu'elle se protège. Peut-être n'a-t-elle pas tort. » Fatiguée par la tension nerveuse, Amy décida de rebrousser chemin. Des frôlements en provenance des taillis voisins lui apprirent que la fillette la suivait de près. L'amnésique se garda bien de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Jusqu'au bout, elle s'attendit au pire. Toutefois, elle émergea de la forêt sans avoir subi aucune agression. « On dirait que je progresse », se dit-elle en regagnant sa tente. Avec un peu de chance, une rencontre devrait se produire d'ici peu. Elle attendit la nuit avec impatience, car son instinct lui soufflait que le contact tant attendu aurait lieu à la faveur de l'obscurité. Angus s'était retiré dans ses quartiers sans lui adresser la parole. La rupture était désormais consommée. S'il en avait eu la force physique, il les aurait chassés de son territoire, séance tenante. Les jeunes femmes se couchèrent, mais, tandis que Libby basculait d'emblée dans le sommeil, comme à son habitude, Amy resta sur le qui-vive, la respiration courte, prête à toute éventualité. Immobile au milieu des ténèbres, le temps lui parut long. Elle avait jugé inutile de se munir d'une arme, car elle se savait incapable d'en frapper son adversaire le cas échéant. Aux alentours de minuit, elle perçut des frôlements contre la tente. Puis, l'odeur de crasse et de parfum mêlé la submergea. Elle garda les paupières baissées. La fillette se tenait près du lit. Amy sentit qu'on lui glissait quelque chose entre les mains. Un livre ? Puis l'enfant fit volte-face et s'en alla comme elle était venue. Amy attendit une dizaine de minutes, le cœur battant. Enfin, elle s'assit sur sa couche et alluma la lampe de poche. Ce n'était pas un livre, mais un cadre en argent dont le verre avait explosé sous l'effet de la chaleur. Il contenait une photographie aux trois quarts brûlée, dont seule subsistait la partie supérieure gauche. On y distinguait trois visages féminins, deux fillettes souriantes encadrant une jeune femme. La fillette de gauche était jolie, celle de droite assez quelconque. Quant à la jeune femme, c'était... Amy crut que son cœur bondissait hors de sa poitrine. La jeune femme, c'était elle-même, Amy Sweetheart. Sous le coup de l'émotion, Amy alluma la lampe à pétrole et réveilla Libby. D'abord grommelante, l'infirmière ne tarda pas à se passionner pour ce nouveau coup de théâtre. « Bon sang ! Hoqueta-t-elle. La femme, c'est toi ! Regarde un peu ! Tu es juste mieux coiffée, c'est tout ! Et puis tu as ce joli collier autour du cou. Un truc pareil, ça doit coûter bonbon. Qui sont les gamines ?»« Je ne sais pas, » répondit Amy le souffle court. Je suppose qu'il s'agit de Sharon et d'Alicia, les filles du château. La jeune comtesse et la gosse des domestiques. Mais laquelle est laquelle? Ça, mystère. Tu as été photographiée avec elle, réfléchit Libby. Ça prouve que tu étais quelqu'un d'important. Je devais être leur préceptrice, supposa Amy. Je leur donnais sans doute des cours de culture générale, de maintien. Le genre de choses qu'on enseigne dans la haute société. La grosse fille secoua la tête en signe de dénégation. Non, fit-elle, les sourcils froncés, ça ne colle pas. Une simple employée ne porterait pas un collier de cette valeur. Ma vieille, c'est l'évidence même. Tu étais la femme du comte Ashdown, la mère de Sharon. Amy se raidit. Mais oui, insista Libby. Tu as l'âge requis, un peu plus de la trentaine, je dirais 32. Regarde les gamines, elles ont environ 11 ans, ce qui veut dire que tu aurais accouché à 21 ans, c'est correct. Voilà pourquoi tu tenais tellement à rentrer ici, c'est chez toi. tu es venu rechercher ta fille. L'enfant sauvage, c'est ta gosse. »
Amy tremblait. Elle dut serrer les mâchoires pour empêcher ses dents de claquer. Constatant son état, Libby l'enveloppa dans une couverture.
« Reprends-toi, » ordonna-t-elle. « Tu ne vas pas tourner de l'œil, tout de même. »
Quand elle eut recouvré son sang-froid, Amy reprit la photographie des mains de sa camarade et la scruta, essayant de déceler une ressemblance sur les traits de l'une ou l'autre fillette.
« Si la photo était en couleur, on verrait si l'une des deux est rousse, » murmura-t-elle.
« Celle de gauche, la plus jolie, a les cheveux frisés, » fit observer Libby.
« À mon avis, c'est ta fille. »
Amy essayait de réfléchir, mais les pensées se bousculaient dans son esprit.
« Je me prenais pour une espionne allemande, » songea-t-elle. « Et voilà que je me découvre mariée à un lord anglais, mère d'une petite fille. »
L'un n'empêche pas l'autre, lui souffla au même moment une méchante petite voix.
« Tu n'as donc jamais entendu parler des agents dormants ?»
Amy fit la grimace. Elle savait ce que cachait ce terme. Des espions installés dans le pays depuis des années, intégrés à la population, insoupçonnables, attendant un signe de leur maître pour passer enfin à l'action. Et quelle meilleure couverture pour un agent dormant que de devenir une lady, insista la voix. Comment soupçonner l'épouse d'un père du royaume d'être une espionne au service du Troisième Reich? Non, l'un n'empêchait pas l'autre.
À mon avis, la gamine t'a reconnue, expliqua Libby. Voilà pourquoi elle s'est portée à notre secours quand le vieux Jacques a tenté de nous brûler vives.
Mais ensuite, se plaignit Amy, elle aurait pu venir à moi. Au lieu de ça, elle a continué à jouer à cache-cache.
Ça peut se comprendre, si elle considère que tu l'as abandonnée au milieu des ruines. Probable qu'elle t'en veut.
Évidemment, vu de cette manière.
Bon sang, répéta l'infirmière. Quelle nouvelle! J'ai besoin de boire un coup. Ça tombe bien, j'ai justement piqué un flacon de brandy à ce pauvre Angus. On va s'en jeter un, ça nous requinquera. Tu es plus pâle qu'une statue de la mère Tussaud.
Amy avala d'un trait le contenu du gobelet que Libby venait de lui glisser dans la main. L'alcool lui fit du bien.
C'est bon signe, soliloqua l'infirmière. Si la môme t'a apporté ce cadre, c'est qu'elle veut mettre fin aux hostilités. Elle te fait comprendre qu'elle accepte de te reprendre pour mère. Tu piges ?
Amy hocha la tête, dépassée par les événements. Tout de suite après, elle se sentit envahie d'inquiétude au sujet de l'enfant. Était-elle vraiment défigurée ? Avait-elle perdu la parole ?
Je ne peux pas la laisser ici, se dit-elle. Je dois l'emmener, même si cela complique les choses. Nous ne devons plus nous séparer.
Elle s'aperçut qu'elle avait repris le cadre et le serrait au point de s'entailler les doigts sur l'arête d'argent ébréchée. Elle scruta le visage de la petite fille aux cheveux frisés. Pendant une minute, elle espéra que les souvenirs allaient émerger du brouillard, que tout allait lui être rendu, d'un coup, comme cela se passe dans les romans. Mais rien ne vint. Rien du tout. Alors elle fondit en larmes, et Libby la prit par les épaules en lui chuchotant des fadaises comme on fait pour les enfants qui se débattent au milieu d'un cauchemar.